Urbain VI n'est pas du genre à abdiquer facilement, donc il n'en fait rien. Au contraire, en septembre, donc le mois suivant, il crée 29 cardinaux, dont 20 italiens, ce qui est un message, je suis en Italie, et les cardinaux qui sont autour de moi vont me soutenir, puisqu'ils sont tous italiens, et c'est moi qui les crée. Les cardinaux français, irrités, manœuvrent de plus en plus. Ils trouvent des appuis politiques, en France évidemment, mais aussi au royaume de Naples. Si bien que, réunis à Fondi, le 20 septembre 78, donc ça va très vite, une sorte de sacré collège partiel, si on peut dire donc, élit un des siens parmi les cardinaux d'Avignon, Robert de Genève, qui prend le nom de Clément VII, et le schisme d'Occident est né. Ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle aujourd'hui, le grand schisme d'Occident est né. La chrétienté, à partir de 1378, est divisée en deux. La guerre de Cent Ans avait déjà profondément divisé la chrétienté politiquement, militairement, car toute l'Europe est chrétienne, hein. Et cela empire bien davantage encore, évidemment, parce qu'il y a maintenant deux papes, entre guillemets. Le pape de Rome, Urbain VI, et l'antipape, probablement, qui, lui, évidemment, se trouve, repart, à Avignon. Vers la fin du 14e, donc, et je vais prendre comme point de repère 1394, ce schisme est vécu de plus en plus douloureusement en Occident, enfin en Europe, dans la chrétienté. En 1394, 15 ans après la rupture, la naissance du problème, il y a deux papes rivaux, et ils sont à la tête unique, normalement, de la chrétienté. À ce moment-là, c'est Boniface IX qui se trouve à Rome, en 1394, et Benoît XIII qui se trouve en Avignon. Le régent du royaume de France, qui est le premier concerné par cette affaire d'Avignon, Philippe le Hardi, demande alors à l'Université de Paris, à la Sorbonne, une solution de type théologique. L'université donne trois possibilités et le conseil du roi, enfin le conseil du régent Philippe le Hardi, choisit la troisième possibilité qui consiste à démettre les papes. Enfin les papes entre guillemets. Mais ni Benoît XIII ni Boniface IX ne veulent se soumettre. Alors, on prend une thèse qui avait été justement travaillée par l'Université de Paris ces dernières années, par Jean Gerson, qui s'appelait la soustraction d'obédience. On enlève son obéissance pour des raisons particulières, temporairement en tout cas. Et évidemment, Philippe le Hardi, enfin la couronne de France, fait valoir cette idée. Et l'Église en France fait elle-même valoir cette vieille, enfin cette idée récente, mais qui reprend une tendance française à se gouverner elle-même, quoi. Le roi légiférant en matière religieuse, en quelque sorte, et l'autorité proprement spirituelle demeurant dans la main du pape, d'Avignon en l'occurrence. La Sicile, la Castille, la Navarre suivent le même chemin que la France, ce qui est extrêmement important. Mais Benoît XIII ne veut rien savoir, enfin ni l'un ni l'autre. Mais Benoît XIII est le premier à être au front, puisqu'il est à Avignon, et il refuse tout à fait cette manière. Et la soustraction d'obédience ne fonctionne pas du tout comme on l'avait espéré. Le pape d'Avignon ne cale pas du tout, il refuse catégoriquement toute soustraction d'obédience. Du coup, la Castille revient. Et la France revient aussi, retour à la case départ, et il faut repartir donc sur une hypothèse, une solution diplomatique. Certains cardinaux, quelques années après, parce qu'il faut laisser se tasser un peu les choses, n'en pouvant plus, disent qu'il faut réunir un concile qui tranche tout ça. À force de diplomatie, à force de persuasion, on obtient que 500 représentants des deux obédiences, tant romaine que avignonnaise, se réunissent à Pise, c'est le concile de Pise en 1409, ce concile qui est quand même donc habité, 500 représentants, ils décident de déposer les deux papes, entre guillemets, et ils en élisent un nouveau dans la foulée, Alexandre V, et très rapidement ça devient Jean XXIII. Je vais Alexandre V ne survit guère. C'est Jean XXIII qu'on retiendra. Oui, oui, Jean XXIII, justement, c'est ça qui est intéressant. Et qu'on retiendra comme nom. Je ne me suis pas trompé. Et qui est un pape, le pape élu par Pise. Mais les deux autres papes ne sont absolument pas d'accord. Et le remède devient pire que le mal. Trois papes. Trois obédiences. En 1410, donc, on se retrouve avec Jean XXIII, le pape de Pise, soutenu par beaucoup de monde, parce que les 500 représentants représentaient beaucoup de puissance. Mais quand même, à Avignon, Benoît XIII reste encore... il est toujours le vivant, mais il est plus très fort, il n'y a plus beaucoup de soutien. Et Grégoire XII, à Rome, forcément, a un bon nombre de soutiens qui tourne autour de la Romagne, de l'Allemagne, de la Bavière, du Palatinat, etc. Bon, je ne vais pas vous donner la liste, hein, mais évidemment, d'une part de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Italie. C'est Jean XXIII qui, devant cette situation apocalyptique, en quelque sorte, l'antipape de Pise, se met sous la protection de l'empereur Sigismond et, avec son aide, convoque encore un concile en 1414 à Constance, le concile de Constance. Il dure de 1414 à 1418 et c'est lui, le concile de Constance, convoqué par un antipape, Jean XXIII, c'est pourquoi il a le titre de Jean XXIII, mais il est un antipape, donc il n'est pas un vrai pape. Et c'est pourquoi Roncalli, quand il est monté sur le siège de Pierre, a pris le nom de Jean XXIII, puisque le Jean XXIII de l'histoire n'était pas pape. Jean XXIII, antipape, convoque un concile, se met sous la protection du pouvoir temporel le plus haut, qui finalement assure le déroulement du concile. Ce concile durera jusqu'à 1418, donc il trouve la solution. En ce sens que Benoît XIII partira assez vite du concile, il ira puis il partira, il laissera tomber le pape d'Avignon. Grégoire XII, qui est le pape de Rome à ce moment-là, va se démettre après avoir convoqué officiellement le concile pour rétablir la légitimité du concile. Puis il se démet pour favoriser la paix. Quant à Jean XXIII, il n'est pas bégueule non plus. Et donc, il cherche à ce que tout se passe bien. Et il est d'accord pour être déposé par le concile de Constance. Nous avons donc une solution qui se profile. Les trois papes sont tous les trois out. Il n'y a donc plus de pape. Tout va bien dans l'Église. Donc. Ils élisent un pape, Martin V, élu le 11 novembre 1417. C'est sans doute pourquoi il a pris le nom de Martin, parce que c'est la Saint-Martin. Mais quand même, et c'est pourquoi je vous parle de tout ça, voici ce que déclare le concile de Constance qui a élu Martin V sous la protection et avec le soutien de l'empereur Sigismond. Ce synode, légitimement assemblé au nom du Saint-Esprit, formant un concile général représentant l'Église catholique militante, tient immédiatement de Jésus-Christ son pouvoir, auquel toute personne, de tout état, de toute dignité, même papale, est tenu d'obéir en ce qui regarde l'extinction et l'extirpation du dit schisme, ce qu'on appelle, en langage théologique, du conciliarisme. Le conciliarisme est un test théologique condamné par l'Église qui dit que le concile général est supérieur au pape. C'est faux. C'est une erreur théologique, c'est une hérésie. Le pape est supérieur au concile général, parce qu'il n'y a pas de concile général sans pape. C'est simple. Mais là, la déclaration est précise en ce qui concerne l'extinction et l'extirpation du dit schisme. Il n'empêche que de cela, de cet événement, Martin V sort un pape qui de paix, un pape reconnu par tous, on sort de l'affaire, la paix revient, mais la division dans l'Église est très claire et le Saint-Siège, la papauté, est extrêmement affaiblie par cette affaire, puisque, qu'on le veuille ou non, des éléments de conciliarisme et le soutien du pouvoir politique ont résolu le problème de l'Église. Donc, le pouvoir temporel a mis la main, historiquement, sur le pouvoir papal. D'autant plus que Martin V, qui voit bien le problème, sa fragilité, décide à son tour de convoquer un concile à Sienne, puis, je ne sais plus où, mais ça n'a pas d'importance, il meurt avant de l'avoir convoqué, son successeur Eugène IV fera la même chose, mais il s'y mordra les doigts et il y aura tellement de contestations qu'il faudra à nouveau l'intervention de Sigismond et aussi du roi de France pour retrouver la paix dans l'Église. Il y aura du reste un nouveau petit schisme de rien du tout par rapport à ce qui était avant. Donc la papauté est extrêmement affaiblie au début du XVe siècle, en 1417, 100 ans avant la rupture de Luther. C'est la première grande conséquence, circonstance historique de la rupture dramatique de Luther. Il vient 100 ans après une crise majeure, la plus grande crise de la papauté dans l'histoire occidentale de l'Église. Et à cause de cette crise, tout le monde est très occupé par cela. Mais les erreurs théologiques continuent à exister par ailleurs. Ainsi, par exemple, le fameux Jan Wycliffe, Jean Wycliffe, comme disent les Français, en Angleterre, prône, c'est un protestant avant l'heure d'une certaine, il prône un retour à la Bible et à Saint-Augustin, ou plutôt à l'augustinisme. Wycliffe remet en cause l'autorité et la juridiction pontificale. Il préconise la désignation du pape par voie conciliaire. On voit qu'il rentre exactement dans la faille de l'époque de l'Église. Il dénie aux prêtres en état de péché mortel la capacité de remettre les fautes. Wycliffe prétend que l'Église d'Angleterre est totalement pécheresse et corrompue, puisque c'est un Anglais, et il refuse tout pouvoir temporel au clergé et à l'Église. Il veut qu'on se cantonne au pur pouvoir spirituel. Il est forcément convoqué, il est mis à l'amende, évidemment, mais l'Église est trop faible pour s'occuper de lui, efficacement. Il fait donc en parler de lui, ses idées se propagent jusqu'en Bohême où le fameux Jean Hus fait aussi ce genre de réclamation, donc à Prague notamment. Jean Hus est brûlé, excommunié. En tout cas, Wycliffe est à son tour reconvoqué, l'Église est divisée, elle essaye de se rassembler, mais elle peine beaucoup, elle lui présente des théologiens qui ne sont pas à la hauteur, par-dessus le marché, enfin, rien ne va plus, donc Wycliffe leur tient tête à juste titre, il est emprisonné, et puis finalement, on le brûle. Ben, voilà. Ce qui n'est quand même pas à l'honneur du Saint-Siège, ni à l'honneur de l'Église. Cette période a permis à beaucoup d'idées, comme celle de Wycliffe, de Jean Hus, de se diffuser largement. Contestation du pouvoir papal, du pouvoir politique du clergé, partiellement politique du clergé, de la dénonciation d'un clergé qui est souvent